Magnifique Copé, du nom du ministre qui l'a créé. Je m'attarde un instant sur Copé, pas par plaisir, mais. Allez, pas plaisir, mais bon. Non, parce que je pense que lui, il a une vraie vision idéologique conservatrice d'un certain nombre de choses. Mais Copé, c'est lui qui est à l'origine du déclassement des niches fiscales, c'est-à-dire du fait que certaines niches fiscales n'apparaissent plus dans la loi de finances et soient ailleurs. Et c'est en 2006 que ce déclassement a été fait. Et ce qui a permis pendant un temps de masquer la moitié des niches fiscales en cours. Parce qu'en an, elles étaient très peu nombreuses, mais en cours, elles étaient monstrueuses. Et donc, dans ces niches fiscales masquées, il y avait l'exonération sur plus-value de cession de titres de participation. Alors, les ACO, c'est en clair, si vous êtes à la tête d'une holding, et je vous le souhaite, riche, bah, argent, tant, vous avez des actions, vous allez les vendre, vous allez dégager une plus-value des actions de vos filiales, hein, de la holding, vous allez les vendre, et bien, vous allez simplement être exonéré sur la plus-value de ces ventes-là. Et donc, en réalité, donc ça représente un coût, alors, c'est très discuté, hein. Certains disent que c'est 6 milliards d'euros par an, d'autres c'est 3. Ce qui est sûr, c'est cumulé depuis quelques années, c'est plus de 20 milliards, ça commence à être pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Copé a dit, ben, en faisant ça, on va faire venir des sièges, des holdings, etc. Non, non, il y a eu des restructurations de certaines sociétés qui ont vu là, ben, plutôt de payer des plus-values, c'est des plus-values à long terme, hein, sur des participations depuis 2 ans. Mais ils se sont dit, ben, moi j'ai plein de participations de mes filiales, on va se restructurer, comme ça on pourra vendre. Et du coup, ça a même provoqué parfois certains effets pervers, parce qu'il y a eu la recherche de dégager du rendement à court terme au moment des plus-values exonérées, plutôt que de maintenir des placements longs. Et en réalité, malheureusement, une bonne partie de la fiscalité de l'épargne est tournée vers ce type d'exonération. Ce n'est pas la niche la plus scandaleuse, hein. Il y a le régime Murphy qui permet d'exonérer des versements de dividendes à l'intérieur d'un même groupe de sociétés, c'est 34 milliards d'euros par an. Alors, il y a une logique, hein, derrière, c'est qu'à l'intérieur d'un régime, il peut y avoir des opérations qui ne sont pas nécessairement toutes imposées. Hein. Simplement, là aussi, quand on fait un régime fiscal et qu'il est trop laxiste, il est utilisé les générateurs d'effets pervers. C'est ça le problème des niches fiscales. C'est que on pourrait imaginer j'élargis un peu, qu'on conserve des systèmes incitatifs, mais il faut que les conditions soient bien carrées, parce que si c'est laxiste, c'est n'importe quoi. Je parlais du crédit impôt recherche tout à l'heure, c'est ça. Crédit impôt recherche, déjà, nous, on a du mal à le contrôler parce qu'on ne peut pas qualifier l'opération de recherche ou pas. Donc, on s'adresse à des services de recherche dont le but est de vendre le crédit impôt recherche qui ne vont surtout pas remettre en cause tel ou tel projet. Enfin, le mécanisme de contrôle public est très mal posé et en amont, la législation et la doctrine, et la doctrine administrative, est souvent peu précise. Et je ne sais pas si les collègues dans la salle, mais de temps en temps, elle est trop précise dans le sens où on a des montagnes de notes. Et puis, qu'on n'a pas le temps d'appréhender, etc., et qui donc génère un mauvais contrôle. Mais par ailleurs, vous avez parfois, des niches Copé, sur certains secteurs, des niches fiscales qui sont générateurs d'effets pervers, qui sont très, très laxistes. Tout ça, ça se traduit aussi par un manque de crédit. Il est plutôt concentré sur les grands groupes. Alors, en fait, dans le crédit impôt recherche, ce qu'il faut voir, c'est que. Le crédit impôt recherche a été rénové par la loi de modernisation de l'économie en 2008, il est beaucoup plus simple. Et à l'époque, cette simplification avait été expliquée en disant que ce sera plus facile pour les PME. Ce qui est vrai, globalement, ce qui est vrai. Sauf que la structure du crédit impôt recherche, toutes les dépenses qu'on peut mettre dans le calcul du crédit impôt recherche, en clair, on additionne des dépenses, on a un taux, puis ça fait une réduction d'impôt. C'est ça. C'est 4 milliards d'euros par an, ce qui n'est pas rien. Nous, notre sentiment, c'est qu'on a produit une petite étude là-dessus, c'est qu'on lâche beaucoup trop d'argent au regard du retour sur investissement, si j'ose dire. Et le problème, c'est là aussi, comme c'est mal pensé, c'est générateur d'effets pervers. Alors, pour certaines petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'optimiser, ça peut générer de la recherche, entre guillemets, commerciale, hein, c'est pas la recherche fondamentale, hein, parce que nous aussi, on a un effet déduction par rapport à la recherche publique. C'est le problème. Mais admettons qu'on favorise une recherche privée, vous voyez, on va loin. Hein. Pour les PME, ce n'est pas forcément le truc le plus mal foutu. En revanche, il est largement optimisé par les grands groupes, encore une fois, parce que simplement, ils ont les moyens d'y réfléchir, hein, tout ça, et de l'optimiser. Et nous, on a regardé, on a vu des trucs très bêtes, des salariés qui étaient déclarés chercheurs du jour au lendemain juste pour bénéficier du crédit impôt recherche. On a vu des banques qui avaient travaillé sur des logiciels comment dire, simplement pour leur placement financier, hein, et qui développaient des logiciels et qui faisaient rentrer les dépenses pour le développement de notre crédit impôt recherche. Je ne suis pas sûr que ça soit une recherche tellement utile à l'économie. Le problème, c'est que l'assiette autorise ça. L'assiette autorise vraiment ça. Alors, on a un certain nombre d'exemples croustillants qu'on avait fait valoir à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc voilà, ça date du juin 2010, on a produit un petit rapport là-dessus, et qui montre aussi les difficultés pour nous de contrôler, c'était vraiment notre axe. Parce que je ne vais pas dire qu'il est incontrôlable, mais à peu près, j'ai une anecdote de la région Rhône-Alpes, un collègue qui me dit, bon, moi j'ai fait les calculs de toutes les dépenses qui rentrent dans le crédit d'impôt recherche, mais je voudrais vérifier, je voulais vérifier si c'était vraiment de la recherche. Je me suis adressé à la délégation régionale du ministère de la Recherche et de la Technologie, parce que c'est eux qui doivent contrôler le fond du dossier. Ils ont envoyé un stagiaire, 2 heures dans l'entreprise, qui est revenu à la délégation en disant, ben, il m'a expliqué que c'était la recherche, mais je ne sais pas trop. Et la délégation, il a dit, de toute façon, nous, notre boulot, c'est de vendre du crédit d'impôt recherche, on va aller de boum, au revoir. Voilà. Et les sociétés bien informées le savent, ça.